Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. D'abord, un mot pour les enfants qui sont en vacances. Aujourd'hui, c'est dimanche, nous fêtons la résurrection du Seigneur, comme tous les dimanches de l'année. Mais dans le calendrier des saints, dans le sanctoral, aujourd'hui, le 25 juillet, c'est Saint Jacques le Majeur. Si vous regardez votre missel, dans le canon romain, dans la prière eucharistique, on cite deux fois le prénom Jacques. Il y a Jacques le Majeur, le Grand, et Jacques le Mineur, fils d'Alphée. Aujourd'hui, c'est Jacques le Majeur, le frère de Jean, le fils de Zébédée, celui qui, avec son frère, a essayé de se placer à droite et à gauche de Jésus en envoyant sa maman auprès de Jésus. Celui qui a vu Jésus transfiguré sur le mont Tabor, celui qui a vu Jésus redonner la vie à la fille de Jaïr, celui qui a dormi avec Pierre, avec André, non, avec Pierre et Jean, auprès de Jésus au Jardin des Oliviers. Et celui, finalement, qui a donné sa vie le premier parmi les apôtres pour Jésus. En 42, après Saint-Étienne, diacre, premier martyr, Saint-Jacques se fait décapiter. C'est écrit dans les Actes des Apôtres, je cite, « Le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. » Chapitre 12. On nous dit que le corps de Saint-Jacques a été transporté en Espagne. Est-ce qu'il a évangélisé l'Espagne avant son martyre ? Ou est-ce que simplement son corps a été transporté là-bas? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que un jour, un homme a vu une étoile au-dessus d'un champ. Et il s'est dit, il faut que je cherche, je creuse. Et là, il a trouvé, dans le Campo Astella, dans le champ de l'étoile, il a trouvé le corps de quelqu'un où il était écrit sur le tombeau, « Ici est Jacques, frère de Jean ». Et depuis donc, on va en pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle, comme on va à Rome ou à Jérusalem. Les plus grands pèlerinages du monde, c'est Rome, Jérusalem et Saint-Jacques de Compostelle. Aujourd'hui, au fait, le grand Saint-Jacques dont je viens de vous parler aujourd'hui. Et vous voyez que dans sa vie, tout n'est pas parfait. Il était ambitieux, orgueilleux. Il était aussi colérique, parce qu'une fois il a dit à Jésus, « Bon, dans ce village, ils ne nous ont pas écoutés. Est-ce que tu veux qu'on prie le Père qu'il envoie le feu du ciel ?» C'est pour ça qu'on les a appelés les fils du tonnerre. Il était ambitieux, colérique. Puis après la Pentecôte, il a été fidèle jusqu'à la mort. C'est magnifique. Donc on peut prier Saint-Jacques dans notre cœur aujourd'hui pour lui demander la fidélité et la force. Pour les plus grands, aujourd'hui, 9e dimanche après la Pentecôte, notre Sainte Mère l'Église nous offre une magnifique secrète, qu'on appelle aussi quelquefois oratio super oblata, l'oraison sur les offrandes, et je me propose de la méditer avec vous. D'abord, je vous la lis en français, vous l'avez évidemment dans vos missels, qui ne vous quittent pas quand vous venez à la messe en latin, c'est une évidence. Accordez-nous, Seigneur, de nous approcher dignement de ces saints mystères, car chaque fois qu'en mémoire de votre passion ce sacrifice se célèbre, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Je vous propose donc de méditer sur trois points. Premièrement, à chaque messe, c'est le sacrifice de la croix qui est rendu présent. Deuxièmement, à chaque messe, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Et troisièmement, comment pouvons-nous approcher dignement des saints mystères? Donc, tout d'abord, à chaque messe, c'est le sacrifice de la croix qui est rendu présent. Voilà le mystère ineffable de la messe. Ce que nos yeux ne voient pas, mais que la croix d'autel située ad orientem et juste au-dessus du prêtre vient nous rappeler. C'est ce que nos yeux ne voient pas, mais que les bras écartés en signe de croix du prêtre nous rappellent dans le rite lyonnais, dans le rite dominicain des fils de Saint-Dominique, dans le rite cartusien des moines chartreux. Ce que nos yeux ne voient pas, les signes liturgiques nous le proclament pour nous aider à entrer dans la réalité, dans le mystère qui s'accomplit, qui s'actualise à l'autel. La croix de l'autel, les bras du prêtre dans certains rites liturgiques. Puisque l'Eucharistie est un mystère de foi, il nous faut un argument d'autorité. C'est pourquoi je vous cite tout d'abord le catéchisme de l'Église catholique. L'Eucharistie est l'actualisation, l'offrande sacramentelle de l'unique sacrifice du Christ. Dans l'Eucharistie, le Christ donne ce corps même qu'il a livré pour nous sur la croix, le sang même qu'il a répandu pour une multitude en rémission des péchés. Le sacrifice du Christ et le sacrifice de l'Eucharistie sont un unique sacrifice. C'est une seule et même victime. C'est le même qui offre maintenant par le ministère des prêtres, qui s'est offert lui-même alors sur la croix. Seule la manière d'offrir diffère. Sur la croix, le Christ s'offre de façon sanglante. Sur l'autel, il s'offre de façon sacramentelle, à travers le voile du sacrement, à travers la douceur du rite liturgique. Mais c'est un unique et même sacrifice qui est là, rendu présent. Puisque la messe rend présent l'unique sacrifice de Jésus, alors c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit à chaque messe. Jésus nous sauve à chaque messe. Je cite maintenant le Concile de Trente. Le Christ, notre Dieu et Seigneur, s'offrit lui-même à Dieu le Père, une fois pour toutes, mourant en intercesseur sur l'autel de la croix, afin de réaliser pour eux, les hommes, une rédemption éternelle. Cependant, comme sa mort ne devait pas mettre fin à son sacerdoce à la dernière scène, la nuit où il fut livré, il voulait laisser à l'Église son épouse bien-aimée un sacrifice visible, où serait représenté le sacrifice sanglant qui allait s'accomplir une fois pour toutes sur la croix, dont la mémoire se perpétuerait jusqu'à la fin des siècles et dont la vertu salutaire s'appliquerait à la rédemption des péchés que nous commettons chaque jour. La vertu salutaire du sacrifice de la croix s'applique à nous chaque jour grâce au saint sacrifice de la messe. Saint Jean-Paul II l'a dit de façon encore plus lapidaire dans sa dernière encyclique extraordinaire, Ecclesia de Eucharistia Vivit, l'Église vit de l'Eucharistie. Je cite Jean-Paul II. Ce sacrifice est tellement décisif pour le salut du genre humain que Jésus-Christ ne l'a accompli et n'est retourné vers le Père qu'après nous avoir laissé le moyen d'y participer comme si nous y avions été présents. Tout fidèle peut ainsi y prendre part et en goûter les fruits d'une manière inépuisable. L'Église vit continuellement du sacrifice rédempteur. Elle y accède non seulement par un simple souvenir plein de foi, mais aussi par un contact actuel, car ce sacrifice se rend présent, se perpétuant sacramentellement dans chaque communauté qui l'offre par les mains du ministre consacré. De cette façon, l'Eucharistie étend aux hommes d'aujourd'hui la réconciliation obtenue une fois pour toutes par le Christ pour l'humanité de tous les temps. Fin de citation. Vous le voyez, le sacrifice du Seigneur vient comme nous toucher, ici et maintenant. À chaque messe, c'est le salut qui nous est offert et qui s'opère pour nous. La messe sauve le monde, parce que la messe, c'est le sacrifice de Jésus, offert de façon sacramentelle. Nous arrivons à la troisième et dernière partie. Comment pouvons-nous approcher dignement des saints mystères? La réponse, c'est par la grâce de Dieu, et uniquement par la grâce de Dieu. Car par nous-mêmes, nous ne sommes dignes ni d'offrir le sacrifice du Christ au Père éternel, ni de participer à l'offrande du Christ, ni de communier au corps et au sang du Seigneur. Mais par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu, le Seigneur nous rend capables d'offrir le sacrifice de Jésus, de participer à son offrande, et spécialement en le recevant sacramentellement et réellement dans la Sainte Communion. Même si une personne baptisée est en état de péché mortel, elle peut et elle doit offrir le sacrifice du Christ pour la rémission de ses péchés, pour le bien de toute l'Église et pour le salut du monde. Même si une personne baptisée est en état de péché mortel, elle peut et elle doit s'offrir elle-même tous les dimanches avec le Christ, par le Christ, dans le Christ, à Dieu le Père. Saint Jean-Paul II nous dit encore, je le cite, « L'Eucharistie est également le sacrifice de l'Église. L'Église, qui est le corps du Christ, participe à l'offrande de son chef, de sa tête. Avec lui, elle est offerte elle-même tout entière. Elle s'unit à son intercession auprès du Père pour tous les hommes. Dans l'Eucharistie, le sacrifice du Christ devient aussi le sacrifice des membres de son corps. La vie des fidèles, leurs louanges, leurs souffrances, leurs prières, leur travail sont unis à ceux du Christ et à sa totale offrande et acquièrent ainsi une valeur nouvelle. Le sacrifice du Christ présent sur l'autel donne à toutes les générations de chrétiens la possibilité d'être unis à son offrande. » Fin de citation. Encore une citation, tellement elle est belle, maintenant du cardinal Journet, immense théologien. « Chaque messe est à travers la croix du Christ une grande bénédiction, une explosion silencieuse de l'amour, une grande descente de Dieu dans le monde pour empêcher qu'il périsse et que le mal en lui l'emporte sur le bien. Et en retour, chaque messe provoque dans une partie cachée du monde une réponse d'amour qui, à travers la croix du Christ, monte jusqu'à Dieu. » Une personne baptisée doit aussi, autant que possible, se préparer à recevoir son Seigneur dans la Sainte Communion. Saint Paul nous exhorte à un examen de conscience. Il écrit aux Corinthiens : « Quiconque mange ce pain ou boit cette coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'il mange alors de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sa propre condamnation s'il décerne le corps du Seigneur. Aussi, celui qui est conscient d'un péché grave doit recevoir le sacrement de la réconciliation avant d'accéder à la communion. » Saint Jean-Paul II, encore une fois, a écrit ceci, écoutez bien. « Je désire donc redire que demeure et demeurera toujours valable dans l'Église la norme par laquelle le Concile de Trente a appliqué concrètement la sévère admonition de l'apôtre Paul, en affirmant que pour une digne réception de l'Eucharistie, si quelqu'un est conscient d'être en état de péché mortel, il doit auparavant confesser ses péchés. » Eh bien, chers frères, il ne s'agit pas d'être scrupuleux, ni non plus d'être janséniste, mais il s'agit d'être catholique, d'être fidèle au magistère constant de l'Église. Si j'ai conscience d'être en état de péché mortel, je vais d'abord me réconcilier avec le Seigneur, demander et recevoir son pardon dans le sacrement de pénitence, avant de communier sacramentellement. Il faut bien entendu que notre conscience soit juste et qu'elle n'écoute pas le démon qui veut soit nous éloigner de la Sainte Communion en nous faisant croire que nous sommes en état de péché mortel, soit nous endormir dans nos habitudes de péché grave ou mortel en nous disant que nous n'avons pas besoin de conversion et de confession. À ce sujet, je vous rappelle que pour qu'il y ait un péché mortel, il faut trois conditions. Une matière grave et que le péché ait été commis en pleine conscience et de propos délibérés. En d'autres termes, c'est grave, c'est contraire aux 10 commandements de Dieu, c'est incompatible avec l'amour de Dieu et de mon prochain, je le sais, j'en suis pleinement conscient et je le fais quand même, sans aucune circonstance atténuante. Ça, c'est le péché mortel. C'est parce que le péché mortel détruit en nous la charité qui nous éloigne aussi de la Sainte Communion. En conclusion, vous le voyez bien, mes bien chers frères, En une seule oraison, une seule secrète d'un dimanche, la Sainte Église dit tout cela. La messe, c'est le sacrifice de Jésus. C'est l'œuvre de la rédemption qui s'accomplit. Alors Seigneur, rendez-nous dignes, ou pas trop indignes, d'y participer, de vous l'offrir, d'en recueillir les fruits du salut éternel par la Sainte Communion. Que la Vierge Marie, qui a communié des mains des apôtres et peut-être de Saint Jacques que nous fêtons aujourd'hui, nous obtienne cette grâce et un peu de l'amour qu'elle avait du sacrifice du Christ, du sacrifice eucharistique, elle qui s'était déjà tenue debout au pied de la croix pour notre salut. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.